Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Il était comme chaque 9 novembre à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, et donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir, Thomas Soto.
C'est quoi être gaulliste aujourd'hui en 2020, 50 ans après la mort du général ?
Ne pas renoncer et croire en la France, si je devais résumer.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique gaulliste. Vous, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean Castex, François Hollande, tout le monde revendique le gaullisme.
Oui, peut-être, mais c'est aux Français de décider. Mais en tout cas, tout le monde n'a pas voté les mêmes textes, n'a pas signé les mêmes traités, n'a pas agi de la même façon depuis qu'il est en responsabilité. Et tout le monde n'a pas le même projet. Voilà, donc c'est aux Français de trancher. Moi, je ne suis pas là pour décerner des brevets de gaullisme. Je crois profondément en l'indépendance de mon pays, en la souveraineté du peuple, en un certain humanisme. Et pour moi, c'est ma boussole gaulliste. Voilà. Après, j'en tire les leçons à ma façon, avec humilité. Mais je crois que notre pays mérite mieux qu'aujourd'hui. Et je pense qu'un autre destin est possible pour la France.
Alors, vous avez tweeté tout à l'heure sur le sujet, sur De Gaulle. Comme chaque année en route vers Colombey, donc c'était tôt ce matin, en cette période, et je vous cite, péténiste, rendre hommage à De Gaulle est un appel à l'esprit de résistance. J'avoue que je ne comprends pas ce tweet. Ça veut dire quoi, la période péténiste ?
Oh, c'est très simple. Je parlais de période. C'est-à-dire un état d'esprit défaitiste. Défaitiste vis-à-vis des islamistes qui égorgent nos concitoyens, défaitiste vis-à-vis de la racaille qui tient nos cités, défaitiste vis-à-vis de la mondialisation totalement inhumaine qui est en train d'acheter nos plus belles entreprises, défaitiste vis-à-vis de l'Union européenne, dont les dirigeants ne sont pas élus et qui décident à la place des nôtres. Et c'est tout ce contre quoi je lutte.
Donc les péténistes d'aujourd'hui, ce sont les gens qui sont au pouvoir ?
Disons que le péténisme aussi, dans mon esprit, c'est de gouverner un peu par la peur et de culpabiliser les Français. Et j'estime qu'aujourd'hui, un autre destin est possible pour mon pays, de résistance, une volonté beaucoup plus forte de vaincre, passer des paroles aux actes. Et je n'aime pas la manière dont aujourd'hui on traite les Français comme des enfants. Moi, je crois que les Français sont adultes, méritent mieux. Et en tout cas, j'ai une exigence pour mon pays, c'est le sens d'ailleurs de ma candidature présidentielle, c'est de dire, soit la France, d'ailleurs il y a une série, tiens, vous allez voir ce soir la télévision, j'ai regardé là, sur internet la série De Gaulle, le dernier épisode, j'ai pas pu m'empêcher de regarder le dernier, et à la fin il y a une conversation entre Malraux et De Gaulle, et De Gaulle dit, il y aura peut-être des dirigeants intelligents, habiles, malins, parfois honnêtes, mais ils ne croiront pas assez en la France, et quand on ne croit pas assez en la France, elle s'effondre. La France, elle ne peut être qu'indépendante.
De Gaulle ne se servait pas de l'excès des mots pour faire passer ses idées. Est-ce que ce terme de péténiste, qui est tellement chargé d'histoire, qui est tellement lourd, c'est pas un peu, peut-être exagéré, d'utiliser ça pour décrire la situation de notre pays aujourd'hui, quand on sait ce qu'a été l'histoire, quand on sait ce pourquoi De Gaulle s'est battu.
Au contraire, vous savez, le général De Gaulle avait le bon choix des mots, et je crois que notre pays est menacé d'effondrement. Je le pense fondamentalement. Et je crois que les Français, dans leur ensemble, sont tristes aujourd'hui, souvent inquiets, parce qu'ils ne reconnaissent plus la France. Et qu'on ne sortira pas de cela en continuant avec ceux qui, depuis 20 ans, ont affaibli, trahi la France. Je crois qu'à un moment, je dis aux Français, il faut réagir. On ne peut pas continuer à subir. Et il y a une espèce d'édredon général. Et c'est de cela dont je parlais, de période. Parlais de période, le sens des mots.
Je
ne disais pas les hommes, les périodes. C'est-à-dire un sentiment de voilà, faut laisser filer, on s'en sortira plus, on pourra pas, la France est une sorte de vaste petite région comme ça, ballottée. Non, je crois que la France a beaucoup d'atouts, je pense que les Français sont courageux, et je pense que notre peuple français mérite beaucoup mieux, et c'est le grand danger aujourd'hui.
Cette période d'épidémie, de menace terroriste ultime, de guerre, pour reprendre un mot à la mode chez les politiques, ne nécessiterait-elle pas une forme d'union nationale, Nicolas Dupont-Aignan, comme ce qu'a fait le général de Gaulle au lendemain de la guerre ?
Oui, mais il y avait une union nationale sur une exigence, pas une union nationale sur un évanouissement. Donc l'union nationale, oui, mais autour de quoi et pourquoi faire ? le pétainisme était une forme d'union nationale au début. C'était le grand argument de Pétain, rassurez-vous. Mmh. Et pour le pire. Donc moi, je crois que, oui, union nationale, mais sur un projet de résistance, d'indépendance,
de le référendum. Projet,
par exemple, combien de fois j'ai proposé un référendum, faire confiance au peuple français. Vous savez, si les Français ne croient plus en la politique, c'est peut-être aussi parce que les classes dirigeantes ont méprisé le peuple français, ne lui ont pas fait confiance. En 2005, il a voté. On s'est assis sur son vote. Enfin, on, pas moi. Ils se sont assis sur ce vote. Et je pense que la fracture vient de là. Et moi, je veux dire à mes compatriotes qu'un autre destin est possible. Il n'y a aucune fatalité à subir. La France en a vécu beaucoup d'autres dans des conditions encore plus tragiques. Encore plus tragiques, hein. Donc, attention. Mais aujourd'hui, c'est pas les mêmes époques. Je disais que c'était la même nature, mais pas le même degré, bien évidemment. Mmh. Mais vous savez, beaucoup de Français s'inquiètent, la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ça est en train de s'effondrer devant nous. Il faut réagir. Mmh. Et c'est rapidement. Un pays, vous savez, peut sortir de l'histoire. Et notre pays est en train de sortir de l'histoire.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes candidat à la présidentielle. J'ai des questions assez précises à vous poser sur la gestion de l'épidémie de coronavirus. On l'a appris cet après-midi, Pfizer dit avoir mis au point un vaccin efficace à 90% selon les résultats préliminaires. Est-ce que vous seriez prêt à vous faire vacciner, Nicolas Dupont-Aignan ?
Je ne peux pas encore vous répondre. J'attends de voir ce qu'il y aura. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des mesures à prendre que j'ai proposées dès le 26 janvier, qui ont réussi dans certains pays, notamment asiatiques, sur le contrôle des frontières, on ne nous a pas écoutés à l'époque, sur le port du masque, j'ai été ridiculisé par de nombreux médias, parce que j'avais porté le masque à l'envers, c'est vrai, mais dès le début mars, sur les tests, début juillet, j'alertais sur la nécessité de tests rapides qui existent dans les pays d'Asie, on a mis un temps fou, sur les personnes vulnérables, sur les EHPAD, sur la liberté de prescription médicale. C'est quand même surréaliste que l'hydroxychloroquine soit interdite en France, alors qu'elle est autorisée dans beaucoup de pays.
Il n'y a plus une étude qui dit qu'elle est efficace.
Non, il n'y a plus une étude qui dit qu'elle est dangereuse. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Et
il y a beaucoup de médecins.
Il
y a beaucoup de médecins. Ah, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de médecins qui estiment que c'est utile. Bref, c'est à eux de choisir. On n'a jamais vu là aussi autant d'amateurisme au sommet, autant. Et on est en train de tuer un pays. Parce qu'on n'a pas pris des mesures pour cibler et contenir l'épidémie. Alors maintenant, le mal est fait.
Vous aussi, mais vous aussi, je sais qu'on vous en parle souvent, mais vous aussi, parfois vous vous trompez, vous aviez dit au mois d'août, comme beaucoup, vous pensiez que l'épidémie était en voie de disparition.
Mais alors, on a pris cet extrait vidéo, mais on n'a pas pris toute la vidéo. Et justement, je disais, l'épidémie est finie là au début août, mais attention les amis, attention, elle peut revenir. Et je citais trois choses, contrôle des frontières, tests et soins. Et on a isolé le début de ma vidéo.
C'est ce qui se fait aujourd'hui.
On a isolé le début de ma vidéo et on a couper la suite. Et c'est là où c'est malhonnête de la part de certains médias qui ont fait ça. Donc, moi, je ne suis pas omniscience. Je regarde ce qui marche dans certains pays et ce qui ne marche pas. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est tragique pour d'ailleurs les États-Unis comme l'Europe occidentale, par rapport à l'Asie. C'est que l'Asie a pris des mesures ciblées qui ont permis de contenir l'épidémie. L'Europe et les États-Unis, parce qu'ils ont refusé certaines mesures ciblées, sont en train de détruire tout leur pays.
Après,
il y a urgence à réussir.
De contenir une épidémie dans un pays totalitaire comme la Chine que dans des pays démocratiques comme les nôtres.
Tout à fait, mais la Corée du Sud et le Japon sont démocratiques. J'ajoute, dernier point où vous avez raison, c'est qu'on peut commettre des erreurs. Mais ce qui est grave, c'est de les commettre plusieurs fois. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse la sortie de ce déconfinement, de ce confinement, et qu'on évite un troisième confinement. L'enjeu, parce que je vais vous dire, l'économie française et la société française ne se remettraient pas d'un nouvel échec. Donc il y a urgence peut-être à changer de politique. Et quand j'entends M. Salomon, directeur général de la santé, encore ce soir, alors même qu'ils ont échoué, qu'il a échoué, j'imagine, je pense qu'à un moment, quand on échoue...
Il devrait démissionner, Jérôme Salomon.
Moi, je serais ministre de la Santé ou je serais président de la République, je l'aurais fait démissionner parce qu'à un moment, quand on commet éternellement les mêmes erreurs, il y a un moment on doit changer. Il y a urgence à changer.
Deux questions pour finir. Je veux savoir si vous arrivez de regretter certains de vos emportements, Nicolas Dupont-Aignan.
Oh, quels emportements ?
Et le 31 octobre, jour de l'agression d'un prêtre à Lyon, vous avez tweeté, je vous lis, « J'apprends avec stupeur la blessure par balle d'un prêtre orthodoxe à Lyon. Quand ces attaques anti-chrétiens s'arrêteront-elles ? Comment la France a-t-elle pu en arriver là ? Nous devons réagir. » En fait, c'était un règlement de compte d'un mari trompé.
Mais reconnaissez, je le reconnais là-dessus, mais reconnaissez que quand il y a 1000 actes antichrétiens dans notre pays, quand on a égorgé un prêtre, quand on égorge certains de nos compatriotes, on sait, pour connaître ce qui se passe dans nos quartiers, l'antisémitisme
qui règne. Mais est-ce que c'est pas dangereux comme ça de tweeter des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité
de la situation ? Entre nous, j'ai dit que c'était un acte antichrétien. C'est une erreur là-dessus. J'en fais amende honorable. Mais je vais vous dire, je crois qu'on pêche. Oh, peut-être. À l'époque, il n'y avait pas de tweet. Mais en tout cas, je vais vous dire, je préfère avoir des dirigeants qui aient réagi à temps plutôt que de voir ce qui se passe aujourd'hui. On laisse faire. Il y a des paroles bienvenues, enfin. Je me réjouis que le président de la République ait enfin nommé le mal, mais on est encore très loin des paroles aux actes. Bon, et là, maintenant, il faut prendre des actes.
Marie Cocu. Dernière question, il y a le
et
président...
Et c'est une bonne nouvelle, si je puis dire.
Président élu, Joe Biden, président élu des États-Unis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la France, pour l'Europe ?
Je n'en sais rien. D'abord, attendons de voir le résultat définitif, qui sera tranché par les juges. Donc moi, j'attends. Et puis ensuite, je ne crois pas que la politique changera tant que cela. Mais je ne peux pas vous le répondre parce que je ne le sais pas. Et j'essaye de me taire quand je ne connais pas.
Donc vous ne tweeterez pas sur ce sujet-là pour l'instant ?
Non, et je n'ai pas tweeté sur le résultat, vous le remarquerez.
Comme quoi on apprend parfois peut-être un peu de ses
erreurs.
Mais
toujours, on apprend toujours. Vous savez, l'important, c'est toujours apprendre. Et j'aimerais que nos dirigeants apprennent aussi de leurs erreurs ou de leurs succès.
Merci beaucoup Nicolas Dupont
d'être
venu ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Natacha Polony. On va rester dans la thématique de Gaulle 1970 à De Gaulle 2020. Que reste-t-il du général ? La réponse de la directrice de Marianne, c'est juste après la pub.
Thomas Soto, RTL Soir.